L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. La comédie. Avant de se quitter, ils décident de sortir ensemble. Xavier demande la permission à son oncle, qui est d'accord. Il lui dit :
« Je suis heureux que tu aies retrouvé ton ami Jean. »
Ils sortent ensemble. Vendant des boîtes, jouer au golf. Xavier ne savait pas jouer au golf, mais il a appris. Durant leur sortie, Xavier essaye de le faire parler de lui et de lui demander comment il était. Jean lui dit, tu étais une personne très bien, un jeune homme du monde et qui était aimé de tous. Xavier lui demande, mais qu'est-ce que je faisais vraiment? Jean lui dit, après ton bac, tu n'as rien fait parce que ton oncle t'a dit que tu n'avais pas besoin de travailler. Xavier lui demande, alors je passais tout mon temps à m'amuser. Jean lui répond, oui. Xavier demande à Jean, et toi, qu'est-ce que tu faisais? Jean lui répond, eh bien moi, je continuais mes études et en ce moment je suis en train d'étudier pour être avocat. Xavier lui dit, je ne suis pas sûr d'être de Sainte-Croix. Jean lui dit, bien sûr que tu es de Sainte-Croix. Xavier lui demande, comment peux-tu en être sûr? Jean lui dit, par ton physique et ton côté timide. Foch, dans un vieil immeuble cossu au troisième étage, un trois pièces. Il invite de temps en temps son ami Xavier chez lui, et quelquefois Xavier couche chez lui. Lorsque Xavier couche chez Jean, il couche dans le même lit que lui. Xavier a peur que durant la nuit, il passe de l'autre côté. Mais il s'aperçoit que lorsqu'il est chez Jean, il ne se passe rien. Xavier aimerait bien pouvoir dire tout ce qui lui arrive. Les deux mondes où il vit, l'histoire du tableau, de Sainte-Croix, etc. Mais il n'ose pas lui en parler. Et comment une personne peut comprendre ce qui lui arrive? Xavier aime beaucoup Jean, parce qu'il est calme, compréhensif et qu'il ne pose pas de questions. Le temps passe et une nuit, Xavier se réveille en sueur et se trouve dans sa chambre à Lyon. Cela ne le surprend plus, mais l'énerve de changer de vie constamment. Il fait toujours aussi chaud. Alors il se lève, s'habille et va marcher dans les rues lugubres de Lyon. Dans une de ces rues, il rencontre enfin de Sainte-Croix qui lui paraît comme ça, qui lui apparaît comme ça. De Sainte-Croix lui demande « Ça va ?» Xavier lui dit « Je ne sais plus. » De Sainte-Croix lui dit « Si tu ne sais plus, c'est que tout va bien. » Xavier lui demande « Qui es-tu vraiment ?» De Sainte-Croix lui demande « Pourquoi est-ce que tu me poses cette question ?» Xavier lui dit « Tu ne peux être de Sainte-Croix ?» Et moi non plus, parce que de Sainte-Croix était un enfant du 19e siècle. J'ai vu son portrait, et que personne d'autre ne s'est appelé comme ça, Jean-Charles-Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. De Sainte-Croix lui demande, qui t'a raconté ces salades? Xavier lui dit, c'est ta grande-tante qui m'a montré le tableau en me disant que ni toi ni moi n'étais de Sainte-Croix, étant donné que de Sainte-Croix, il n'y en a eu qu'un. De Sainte-Croix lui dit, je ne connais pas de grande-tante, mais je n'en ai jamais eu. Ce n'est pas possible que l'on te dise ça. Xavier lui demande, est-ce que tu as un oncle qui s'appelle Auguste Timbis et une tante qui s'appelle Armande? Une fiancée, Gabriel le couvreur? De Sainte-Croix lui dit, non, je ne connais pas ces personnes. Je suis seul, je n'ai pas de famille et je ne connais personne. Xavier lui dit, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Tantôt je suis ici à Lyon et tantôt je suis avec ces personnes qui sont à Paris, et l'on m'appelle, on veut que je sois à Paris, de Sainte-Croix. De Sainte-Croix lui dit, à force de réfléchir, tu ne sais plus où tu en es. Tu devrais arrêter de penser à moi et de te contenter d'avoir de l'amitié pour moi et rien d'autre. Ne cherche pas à savoir qui je suis. D'ailleurs, je ne suis pas grand-chose. Et il disparaît dans la nuit. Xavier aimerait pouvoir en savoir plus, car il se dit que de Sainte-Croix et lui ont quelque chose qui les réunit. Thank you. une nuit, Xavier se couche dans sa chambre à Lyon et se réveille dans une chambre qu'il ne connaît pas. Il se lève, s'habille, car il trouve ses vêtements sur une chaise. Et il sort de la chambre. Une fois sorti de la chambre, il voit avec surprise qui se trouve dans la maison de la grand-tante. Il reconnaît le couloir. Cela l'effraie. Il veut sortir en vitesse de cette maison. Descend les escaliers. Et au dernier étage, au rez-de-chaussée, je veux dire, il ouvre une porte. Malheureusement, c'est la porte du salon où il a retrouvé la grand-tante morte dans son fauteuil. Il voit avec effroi que la grand-tante, dans son fauteuil, lève la tête et lui sourit. Elle lui dit « Venez vous asseoir !» Intimidé, il va s'asseoir dans un fauteuil en face d'elle. Malheureusement, la porte s'est ouverte et apparaît l'oncle avec le sourire. L'oncle dit « Je viens chercher mon neveu. » La grand-tante lui dit « Bien sûr !» Il demande à la grand-tante « Est-ce qu'il a vu le tableau ?» La grand-tante ne dit rien. L'oncle dit à Xavier « Viens !» Xavier suit son oncle comme un somnambule. Voiture, l'oncle lui demande « Ça s'est bien passé avec ta vieille tante ?» Xavier ne sait plus. Sa grand-tante est morte et enterrée. Et maintenant, elle est vivante. Il regarde sa montre et malgré qu'il fasse nuit, il est toujours 15 heures. Il se dit qu'il est retourné en arrière et que sa grand-tante est vivante. Alors cela veut dire que tout ce qu'il a vécu après la mort de sa grand-tante n'a jamais été. Et ses retours à Lyon, le tableau dans la maison de Bourgogne, le clochard qui lui a dit de ne pas oublier qui il est, la visite des parents de Gabriel, son ami Jean. À moins que ce qu'il vit maintenant, sa grand-tante vivante, ne soit pas la réalité. Connaissance. Il se réveille dans son lit à Paris chez son oncle. Il ne sait plus s'il a rêvé de sa grand-tante qui a envie. Mais si c'est la réalité, il n'ose pas demander si sa grand-tante est en vie. Cela ne se fait pas. Jean vient le voir, Xavier le reçoit au salon, le fait asseoir dans un fauteuil en face de lui. Xavier lui demande « Tu veux boire quelque chose ?» Jean lui répond « Oui, un jus d'orange. » Xavier appuie sur la sonnette de la table basse pour faire venir le domestique. Jean lui dit « Tu as une drôle de mine. Tu es fatigué ?» Xavier lui dit « J'ai des hallucinations et je ne sais plus où j'en suis, ce que je suis. » Jean lui dit c'est sûrement dû à ton accident, mais que ces hallucinations vont disparaître. Xavier lui demande, « Est-ce que tu me connais vraiment ?» Jean lui répond, « Oui, bien sûr. » Xavier lui demande, « Est-ce qu'il n'y aurait pas sur mon corps quelque chose, une tache ou un grain de beauté qui pourrait démontrer que je suis bien de Sainte-Croix ?» Jean lui dit, « Tu as sur l'omoplate gauche un minuscule grain de beauté. » Xavier se déshabille. Et lui montre l'omoplate. Jean lui dit, « Il est bien là, tu es bien de Sainte-Croix, tu n'as pas de soucis à te faire. » Xavier ne sait plus, ne se souvient plus si lui n'a pas aussi un grain de beauté à cet endroit. Xavier demande à Jean, « Est-ce que tu ne connais pas l'histoire de ma famille, des deux Sainte-Croix ?» Jean lui répond, « Je n'en connais pas grand-chose. Et puis, moi je suis orphelin, alors des histoires de famille, mais je sais ce que l'on m'en a dit, c'est-à-dire que ton père était plus ou moins dans les affaires et la diplomatie, mais surtout qu'il appartenait à la famille de France, comme toi d'ailleurs. » Et que tu as hérité de ton père d'une immense fortune et de son titre. Grâce à cette fortune, tu n'es pas obligé de travailler. Je sais aussi que ton père n'avait plus de descendance, ce qui fait que tu es le dernier de cette famille. Ton oncle et ta tante sont du côté de ta mère, ou aussi sont très riches, mais n'ont pas de noblesse. Et à la mort de tes parents, qui sont morts d'un accident de voiture, c'est ton oncle qui t'a pris lorsque tu avais 3 ans. Voilà. Je ne peux rien te dire de plus sur toi et ta famille. Et je trouve que c'est pas mal ce que je t'ai dit. Oui, c'est pas mal ce que je t'ai dit. On frappe à la porte. Xavier dit, entrez! C'est le domestique. Xavier lui dit, apportez-nous, s'il vous plaît, du jus d'orange.
Bien, monsieur.
Et le domestique se retire. Xavier demande à Jean, comment nous nous sommes connus? Jean lui répond, nous sommes rencontrés au cours préparatoire de l'école primaire de Saint-Michel à Paris. Nos familles nous ont laissé nous fréquenter car nous étions du même milieu. Mon père était dans l'immobilier et ma mère avait une agence de voyage très importante. Malheureusement, mes parents sont morts en croisière. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils se trouvent au fond de la mer Méditerranée. J'avais 18 ans, adulte, comme j'ai hérité de mes parents. J'ai pu continuer mes études d'avocat et vivre seul. Voilà. Xavier se dit que c'est peut-être la seule personne dans son histoire qui semble bien réelle, mais n'ose pas lui parler de sa grand-tante et du mystère du tableau. Peut-être une autre fois. Oui, peut-être une autre fois. On frappe à la porte. Xavier dit, entrez. C'est le domestique qui apporte la boisson. Il va vers eux, fait le service. Monsieur, merci, dit Jean. Et il donne un verre aussi à Xavier, puis se retire. Après qu'ils aient bu une gorgée, Xavier lui demande « Qu'est-ce que tu penses de ma soi-disant fiancée ?» Jean lui répond « Je ne la connais pas vraiment, mais elle a l'air de savoir ce qu'elle veut et est prête à tout pour y arriver. Xavier lui dit, j'ai l'impression qu'on veut me marier avec elle pour pouvoir me surveiller. Jean lui dit, tu n'as qu'à pas te marier avec elle. Xavier lui dit, ce serait très difficile, car tous complotent pour ça. Et d'ailleurs, tous font tout pour me surveiller. J'ai entendu une conversation entre les futurs vos parents et mon oncle. Il paraît que je dois détenir quelque chose de très précieux, et que ce quelque chose de précieux, c'est moi. Jean lui dit, tu devrais t'en aller et te cacher. Xavier se dit qu'il a raison. Il décide de partir en cachette, mais n'a pas d'argent. L'après-midi, il va dans le bureau de son oncle. Cherche dans les tiroirs de son bureau un peu d'argent. Il en trouve, les prend. Alors, sans que personne n'est là, à part les domestiques, sans rien, juste avec l'argent qu'il a pris, il sort comme s'il allait se promener dans le quartier. Il se dépêche de quitter le quartier. Une fois qu'il est assez loin, il réfléchit pour savoir où il doit aller. Ses pas le mènent dans le quartier de la rue Saint-Jacques. Il voit, dans une petite rue, qui ressemble à une rue des années 50, avec de vieux immeubles populaires, gris et sales, au rez-de-chaussée d'un de ces immeubles, un petit hôtel minable, où c'est marqué « Hôtel moderne » avec un néon au-dessus de la porte. Il entre dans l'hôtel. L'entrée est un petit couloir sombre, les murs ont été roses, il y a du lino taché, vert sur le sol, des escaliers étroits avec des marches, un tapis rouge usé, avec sur les marches un tapis rouge usé, une rampe qui a été verte, il y a une plante verte desséchée, et à côté de cette plante verte, une banque en bois où se trouve une grosse femme à cheveux gris, en chignon. L'air revêche, elle porte une robe noire. Elle est en train de tous côtés avec de la laine rouge. Xavier s'approche de la banque. Elle lui demande, c'est pourquoi? Si c'est pour une heure, c'est 200 euros. Et en plus, tu payes la fille. Il lui dit, je vais prendre une chambre pour coucher une nuit, seule. Elle le regarde bien, il n'a pas de valise. C'est louche de demander une chambre sans avoir de valise. Elle lui dit, vous payez à l'avance. Il lui demande, combien? Elle lui donne une somme, il la paye en liquide. Elle lui donne une clé et lui dit, C'est au premier, la porte 6. Il ne faut pas faire de bruit, parce que ça gêne pour le travail. Il monte au premier étage. Le premier étage est un couloir avec des portes qui sont peintes en marron et qui sont toutes tachées et usées. Les murs ont la tapisserie rouge défraîchie. Le sol a du lino bleu taché. Ça sent la javel et le désinfectant, sans compter la pisse et autre chose. Lorsqu'il passe devant les portes, il entend des petits rires et des cris.
Il ouvre la porte 6. C'est une petite pièce, c'est sombre et sale. Il y a une fenêtre sans rideau et les volets sont fermés. La tapisserie est grise, le niveau au sol est bleu. Il y a un lit à deux places en fer avec un édredon rouge. Il y a une table de nuit, genre 1920, avec dessus une lampe de chevet en forme de tulipe. Il y a une chaise empaillée, un paravent vieux où se trouve derrière un lavabo dégueulasse et en bas un bidet où se trouve dedans de l'eau tachée marron et rouge où baigne un torchon. Après avoir vu tout ça, Xavier est dégoûté. Il a même envie de vomir. Il se dit que chez lui à Lyon, malgré que ce soit misérable, ce n'est pas aussi dégueulasse qu'ici. Mais enfin, il ne va rester qu'une nuit. Il réfléchit pour savoir ce qu'il doit faire et décide de retourner à Lyon. Il regarde s'il a assez d'argent. Pour prendre le train. Oui, il en a assez. Le soir, il est sorti pour aller dans un petit restaurant dans la rue, un restaurant minable pour manger. Et ensuite, il va se coucher. Il dort calmement, pas de rêve. Le lendemain, il quitte l'hôtel et prend un car pour aller à la gare de Lyon, pour prendre un train pour Lyon. Il y a beaucoup de monde dans la gare et les gens sont bizarres. Ils ressemblent à des zombies, ils font presque peur. Il va au guichet pour prendre un billet pour aller à Lyon. Ensuite, il attend le train au quai A1. Le train arrive. Il entre dans le compartiment. Il y a beaucoup de monde.
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Jugnet de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.